With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À 77 ans, Michel Polnareff revient sur scène au printemps avec un spectacle à Paris, mais donné à distance, en direct, de sa maison de Palm Springs, en Californie. C'est ce qu'il a annoncé dans Le Parisien le 24 janvier. Son succès foudroyant en 1966, ses 800 jours confinés au Royal Monceau dans les années 80, son exil américain, son retour triomphal en France en 2007, réunissant 1 million de fans dans ses concerts, Code Source retrace la carrière de Michel Polnareff avec Emmanuel Marolle, chef du service culture et loisirs du Parisien, et Éric Bureau, spécialiste musique. Éric Bureau, le 17 janvier, vous interviewez Michel Polnareff pour Le Parisien au sujet d'un spectacle qu'il va faire à distance à partir du 5 mai au Théâtre du Palace, 80 dates, étalées sur 300 jours environ. Il sera en fait chez lui, en Californie, à Palm Springs. À quoi ça va ressembler ?
Ça s'appelle Polnareff et il y a juste une affiche avec la terre, des coquelicots, des gens qui se baladent et l'espace avec ses lunettes blanches en fond. Et donc ce qu'il dit, c'est que ce sera un mélange d'exposition mais virtuelle et que le week-end, on ira chez lui à l'occasion d'un show qu'il donnera de sa villa de Palm Springs. Piano-voix, peut-être avec des musiciens par la suite, en direct pour les visiteurs de cette exposition.
Éric Bureau, il est comment Michel Polnareff en interview ?
C'est vraiment un personnage hors norme, c'est un ovni. Il est très drôle et il est tout à son œuvre, tout à sa carrière, tout à sa musique. Donc il est toujours un petit peu emporté par cette passion-là. Il est sans filtre.
Éric Bureau, Emmanuel Marolle, vous l'avez rencontré plusieurs fois pour Le Parisien, notamment à Las Vegas, on va y revenir. Vous allez nous résumer son parcours dans cet épisode de Code Source. Michel Polnareff est né le 3 juillet 1944 à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Mais la famille déménage à Paris, où il grandit donc. Michel Polnareff est un enfant de la balle. Emmanuel, son père, est compositeur et il est très dur avec lui.
Son père le met très jeune au piano, il a 4 ans, et il raconte que dès qu'il faisait une fausse note, il se prenait des raclées. Que son père, par exemple, s'asseyait sur le clavier du piano et lui demandait de reconnaître les notes. Et que s'il les reconnaissait pas, bah, il se prenait encore une fois un coup de ceinturon. Enfin, ça a été assez terrible pour lui. Tout ça sous les yeux de sa maman, qui essayait tant bien que mal de gérer ce père qui était totalement tyrannique. Et au fil des années, il a appris le piano de cette façon-là jusqu'à avoir un prix de conservatoire à l'âge de 12 ans.
Quand il a 19 ou 20 ans, Michel Polnareff quitte l'appartement familial et il connaît à cette période, Éric Bureau, la pauvreté.
Son père veut lui faire payer le loyer. Donc là, il se dit c'est peut-être le moment de partir. Il achète une guitare chez Paul Boucher sur le chemin et il monte vers le Sacré-Cœur et il va pendant des mois et des mois jouer là-bas. Il dort dans les stations de métro. Il en développe vraiment une capacité à la guitare, il est dans la rue et c'est là qu'il apprend vraiment le métier.
C'est une période où il ne cache pas qu'il fréquente régulièrement des prostituées.
Il fréquente les prostituées qui sont autour de l'Arc de Triomphe des Champs-Élysées et parle notamment d'une Algérienne avec des dents en or qu'il appelait Monbiquet et qui lui a fait vraiment découvrir la sexualité.
Comment est-ce qu'il commence sa carrière artistique ?
Il joue sur les marches du Sacré-Cœur et puis il est repéré par quelqu'un qui lui propose de participer à un tremplin musical qui gagne. Et la récompense de ce tremplin, c'est un contrat avec la maison 10 Barclay. Et il refuse parce qu'il a peur d'être formaté. Et puis ensuite, par l'intermédiaire d'un ami, il rencontre Lucien Maurice. Alors Lucien Maurice, à l'époque, c'est le directeur des programmes d'Europe 1. C'est aussi un manager, notamment de Dalida. Et Lucien Maurice, lui, permet de signer un contrat chez AZ. Et là, à ce moment-là, il dit « Ok, moi, je veux bien faire un disque pour ce label-là, mais je veux que ce soit en Angleterre et je veux que ce soit avec tel et tel musicien. » Donc, il avait encore une fois des idées très, très précises de ce qu'il voulait et de ce qu'il ne voulait pas.
En 1966, il sort son premier album, il a 22 ans. L'album est intitulé « Love Me, Please Love Me » et plusieurs de ses chansons deviennent des tubes.
« Sous quelle étoile suis-je né ?» qui est un grand, grand classique de Polnareff. Il y a « La poupée qui fait non » qui a été son premier tube. Et puis il y a « L'amour avec toi ».
Il est des mots qu'on peut penser, mais à pas dire en société.
C'était une chanson qui a été à la fois un tube et qui a extrêmement choqué parce que le texte raconte quelque chose de tout simple. C'est quelqu'un qui dit « je pourrais faire mon grand romantique, te dire des belles choses voilà pour te séduire alors que j'ai juste envie de coucher avec toi ».
J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, 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 oh.
La chanson était interdite avant 22h à la radio. Polnareff, c'était quelqu'un qui, musicalement, en plus, s'inspirait des anglo-saxons. Il était fan des Kings, il était fan des Beach Boys. Dès ses premières chansons, il a cette approche anglo-saxonne avec des textes en français qui sont extrêmement originaux, voire dérangeants.
Le public découvre Michel Polnareff et son apparence androgyne.
Oui, c'est quelqu'un qui a les cheveux longs, il a un visage assez efféminé et puis il est assez fin, il a des pantalons assez serrés, il a des petits t-shirts et c'est vrai que c'est pas un mâle extrêmement viril tel qu'on peut l'imaginer à l'époque.
Dès 1967, il adopte une paire de lunettes noires aux montures blanches qu'il porte tout le temps.
Il le fait d'abord pour l'image, évidemment, mais aussi parce qu'il a des vrais problèmes de myopie. C'est quelque chose qui veut pas retirer, comme un tatouage, quoi, comme une peau. Ça lui permet aussi de se protéger. Et à travers ça, tout de suite, de créer un personnage un petit peu à l'anglo-saxonne.
En 1970, Michel Polnareff sort une chanson dont les paroles peuvent choquer aujourd'hui. Chanson pour dire en résumé qu'il n'est pas homosexuel. Ça s'appelle « Je suis un homme ».
La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer.
Il éprouve le besoin de le faire parce que un certain nombre de personnes le traitent de PD. Il s'est fait agresser aussi à cause de ça. Et à un moment, il veut affirmer son hétérosexualité. Alors, encore une fois, à sa façon, hein, le titre dit tout. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme.
Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Pour lui, mon style correspond bien à mon état civil.
Au lit, mon style correspond bien à mon état civil. Donc en gros, les femmes ont qu'à m'essayer et elles verront bien ce qui se passe au lit.
En octobre 1972, Éric Bureau, Michel Polnareff prépare une série de concerts à l'Olympia et il choisit une affiche choc.
Il apparaît avec un chapeau de mariée, une robe. Il est légèrement de dos et il laisse apparaître en remontant sa robe ses fesses nues. Cette photo qui est accompagnée du mot « Polnarevolution », parce que c'est l'album qui sort à l'époque, c'est tout Polnareff, c'est-à-dire un mélange de provoque, d'humour et de marketing, parce que du coup, ça va faire énormément parler.
L'affiche est placardée des milliers de fois et il est poursuivi en justice pour avoir montré ses fesses un peu partout dans Paris.
Alors, il est d'abord censuré, parce qu'il faut se souvenir qu'on est dans la France de Pompidou, hein, assez bourgeoise et assez conservatrice. Et ensuite, il va être condamné pour attentat à la pudeur à une amende de plusieurs dizaines de milliers de francs.
Emmanuel Marolles, en 1973, Michel Polnareff explique s'être fait escroquer par son homme de confiance. Il se retrouve dans le rouge financièrement et avec une énorme dette fiscale et il décide de partir aux États-Unis.
C'est le mythe américain, il va aller s'installer très vite en Californie. Et puis en plus, il peut quelque part se fondre dans la foule à ce moment-là. C'est plus le Michel Polnareff adoré par les uns, détesté par les autres de par ses provocations. Là, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde qui arrive aux États-Unis.
Vous avez véritablement l'intention de quitter la France ?
Les tendances de la musique française me poussent à partir pour un pays où la musique ressemble plus à ce que je fais, c'est-à-dire aux États-Unis. Là-bas, il y a des gens qui sont très très forts et je préfère vraiment, car je prends des risques évidemment en partant aux États-Unis, je préfère être un artiste méconnu dans une musique que j'aime plutôt que d'être une vedette de quelque chose que je n'aime plus.
Il vit donc là-bas et au bout de quelques années, en 1977, il compose « Lettre à France » sur un texte de Jean-Loup Dabadie, chanson qui parle de son blues du pays.
Jamais le mot France dans le texte. Et effectivement, on comprend très très vite que c'est une chanson sur l'exil, une chanson sur le manque, le mal du pays. Et il raconte lui-même qu'il a soufflé l'idée à Jean-Loup Dabadie après avoir entendu plein de vieilles chansons françaises à New York dans un café. Et tout de suite, ça lui a donné le blues et il a composé très très vite cette mélodie qui est un petit bijou. Et Jean-Loup Dabadie a fait le texte dans la foulée.
En 1978, Michel Polnareff revient en France après 5 ans d'absence. En 1981, il sort un nouvel album, Bulle, en collaboration avec le compositeur de musique de film Hans Zimmer, avec synthétiseur et boîte à rythme. L'album se vend à 800 000 exemplaires. De 1985 à 1987, il s'installe dans un hôtel de Seine-et-Marne, en région parisienne, à Fontenay-de-Trésigny. Et puis, quand cet hôtel ferme ses portes, il va vivre à Paris, dans un palace, Éric Bureau, à partir de septembre 1989.
Oui, c'est le Royal Monceau. En fait, au départ, il doit y rester que quelques jours. C'est sa nouvelle maison de disques. Donc, il vient de signer chez Sony, qui l'invite à rester quelques jours au Royal Monceau. Il va y rester 800 jours. Il va enregistrer sa voix et les voix dans le bar. Il va enregistrer les cordes à l'étage. Il va enregistrer les musiciens dans des chambres. Enfin, voilà, il va y rester 800 jours.
Et dans sa chambre, il a installé un ordinateur, un Minitel. À cette période, pendant qu'il vit au Royal Monceau, il a un grave problème aux yeux. Il commence à perdre la vue.
Oui, il a un gros problème de cataracte. Et potentiellement, on pourrait la soigner au laser. Et le médecin qui voit pour essayer de régler le problème lui dit « mais c'est trop tard, en fait. Le laser, ça ne servira à rien. C'est une double cataracte et il faut vraiment opérer. »
Il a peur de cette opération.
Oui, il a vraiment peur parce qu'il se dit qu'il y a quand même des risques. Il sait qu'à la fois, il est obligé d'y passer, mais que peut-être ça peut rater et qu'il peut devenir aveugle.
Et finalement, il accepte l'opération et il retrouve la vue. Il est fasciné, par exemple, en découvrant le ciel bleu, le ciel qu'il voyait gris jusqu'ici. L'album qu'il a enregistré au Royal Monceau sort le 23 février 1990, Éric Bureau, et l'une de ses chansons devient un tube énorme.
C'est « Goodbye Marie-Lou » qui est un énorme succès. C'est une chanson qui est inspirée justement du Minitel Rose et d'une discussion que Jean-René Mariani, qui est l'auteur des textes de cet album, va avoir avec une jeune femme pendant 3 jours d'affilée et qui va lui coûter extrêmement cher à Jean-René Mariani.
Je m'envoie son pseudo, mais c'est elle qui me reçoit. Jusqu'au petit jour, on se dit tout de nous.
Mais bon, voilà, avec le succès de la chanson, ça reviendra dans ses poches un petit peu plus tard.
Michel Polnareff sort ensuite un disque de live en 1996, mais pas de nouvel album proprement dit. Les années passent, les fans s'impatientent. En septembre 2004, quand il a 60 ans, l'hebdomadaire Paris Match fait sa couverture avec la nouvelle vie de Michel Polnareff et une photo choc.
On voit Polnareff sous la douche, avec une jeune femme qui pourrait être sa fille, sans aucun problème. Ils sont tous les deux à moitié nus, pour ne pas dire complètement nus. Et on voit voilà, la nouvelle vie de Polnareff avec cette jeune fille qui s'appelle Daniela. On apprend après que c'est en fait une jeune journaliste qui est venue aux États-Unis faire un reportage sur des groupes de rock mythiques des années 60 et puis qui a rencontré Polnareff et ça a été un coup de foudre et du coup elle est restée avec lui. Et cette une, elle est un petit peu étrange parce qu'en même temps, il n'y a pas d'interview de Polnareff à l'intérieur. Donc voilà, c'est une sorte de premier pas pour dire « ne m'oubliez pas, je suis toujours là et je commence à amorcer un retour ».
Et en 2007, Michel Polnareff fait son grand comeback avec une série de concerts qui commence par plusieurs dates à Paris-Bercy entre le 2 et le 11 mars. Emmanuel Marolle, vous êtes sur place pour Le Parisien le vendredi 2 mars. Décrivez-nous les toutes premières minutes de ce concert.
Polnareff n'est pas venu chanter en France depuis plus de 30 ans. Il y a des grandes, grandes lunettes, ces fameuses lunettes noires avec leur monture blanche qui surplombent la scène. On ne sait pas trop à quoi ça va servir, mais bon. Polnareff arrive sur scène, sur les premiers accords de la poupée qui fait non. On le voit en ombre chinoise, au fond de la scène. Donc évidemment, il y a une très, très grosse ovation. Il s'avance et il dit « Je n'ai qu'un mot à dire, enfin ». Et il lève le poing comme ça, comme si c'était une victoire. Et il y a des moments exceptionnels dans le concert, c'est quand il se met au piano, il reprend notamment une chanson qui est peu connue, qui s'appelle « L'homme qui pleurait des larmes de verre ».
Il pleurait des larmes de verre, et quand elles atteignaient la terre.
Et là, c'est absolument magique. Et la bonne surprise de ce premier concert, c'est la voix. La voix qui est intacte. Autant musicalement, il y a quelques petites choses un petit peu surprenantes, autant la voix, c'est vraiment la voix de Polnareff telle qu'on en avait rêvé.
Cette tournée est un triomphe.
Je crois qu'en tout, il va y avoir une soixantaine de dates, 1 million de spectateurs, et ça va même se finir par un concert gratuit le 14 juillet à la demande de Nicolas Sarkozy, qui est président de la République, devant des centaines de milliers de personnes.
Bonsoir la France, bonsoir l'Europe, je vois des moussaillons ici. Ok, l'amiral vous salue.
Donc c'est un retour triomphal et totalement réussi pour lui.
Concert gratuit fleuve au Champ de Mars, mais ce retour triomphal est terni. L'un de ses proches, son agent, dépose plainte contre lui. Il dit que le chanteur l'a menacé de mort.
C'est Fabien Lecoeuvre qui s'est occupé de ses affaires à l'époque, qui à un moment raconte qu'il a reçu des coups de fil de Polnareff extrêmement menaçants, notamment parce qu'il soupçonne Fabien Lecoeuvre d'avoir une liaison avec sa compagne Daniela. Lecoeuvre dépose plainte. Donc voilà, après il y a toujours des histoires comme ça autour de Michel Polnareff.
Éric Bureau, on fait un saut dans le temps de quelques années. En 2010, alors qu'il a 66 ans, quelques jours après Noël, le 28 décembre, il fait une annonce importante à ses fans sur Facebook.
Il écrit « Le Polna bébé est arrivé, sauvé des eaux par l'amiral, c'est un garçon ».
Il est papa pour la première fois. À ce moment-là, on ne connaît pas le prénom de l'enfant, mais on sait tout de cet accouchement. C'est lui-même qui a mis au monde le bébé.
Sa compagne Daniela a eu des contractions, c'était en pleine nuit. Donc lui, il a fait couler de l'eau dans une baignoire et puis il a tenté désespérément d'appeler une sage-femme qui était censée intervenir. Il n'a pas réussi à la contacter et puis le travail se faisait de plus en plus. Et effectivement, c'est lui qui l'a vu arriver sous l'eau et il a pris le bébé comme ça. C'est donc lui qui a accouché Daniela.
Mais quelques semaines plus tard, en février, Éric Bureau, Michel Polnareff poste un autre message sur Facebook et il accorde une interview à l'hebdomadaire Gala.
Oui, c'est la stupeur. En fait, il nous apprend qu'il n'est pas le père biologique du petit garçon. Le petit garçon, d'ailleurs, s'appelle Volodia, ce qu'on ne savait pas. Daniela lui a reconnu qu'elle avait fait appel à un donneur. Évidemment, furie et incompréhension totale de Polnareff, il les congédie tous les deux de sa maison.
Éric Bureau, Michel Polnareff va ensuite se réconcilier après cet épisode avec Daniela.
C'est une belle histoire d'amour entre eux, qui dure déjà depuis une dizaine d'années. Et Polnareff, il rêve d'avoir un enfant. Donc ce petit Volodia, il s'y attache et il finit par trouver un arrangement avec Daniela. Il lui demande de changer le prénom du petit. Ils vont l'appeler Luca. Et les deux reviendront habiter chez lui. Et une nouvelle vie commencera à trois et ne l'a jamais quitté.
Emmanuel Marolles, en 2016, Michel Polnareff fait une nouvelle tournée en France, tournée pendant laquelle il était censé défendre son nouvel album.
Ce fameux album qui nous promet depuis des années, pour pas dire des décennies, n'arrive toujours pas. Et puis cette tournée est quand même calée, donc il l'a fait. Puis surtout, ils ont construit un vrai spectacle, une vraie mise en scène qui est plus moderne que la tournée de 2007. Alors elle est moins événementielle parce qu'il n'y a pas l'effet de surprise, parce qu'il n'y a pas l'effet du retour, même si quelques années ont passé. Mais c'est quand même pas la même chose que 30 ans d'absence. Elle est moins spectaculaire, mais artistiquement plus intéressante.
Éric Bureau, fin novembre, début décembre, Michel Polnareff annule les trois derniers concerts de cette tournée à Nantes et à Paris à la salle Playel.
Le soir de la salle Playel, en fait, on apprend que Michel Polnareff est entre la vie et la mort. On a du mal à savoir, il souffrirait d'une embolie pulmonaire et ses jours seraient vraiment en danger. Le lendemain, le surlendemain, il y a son producteur Gilbert Coulier qui intervient sur Europe 1 pour dire « mais en fait, Michel Polnareff va très bien ». Et il s'est retrouvé au moment où il aurait dû être dans sa chambre d'hôtel en attendant le concert, au bar de l'hôtel, en train de siroter des cocktails. Donc nous, on est pris entre ces deux versions. Et là, je vais voir le docteur Philippe Siou, qui est un médecin de l'hôpital américain de Neuilly, qui m'explique effectivement que s'il était intervenu 48 heures plus tard, en fait, Michel Polnareff serait mort.
Éric Bureau, fin novembre 2018, vous êtes en reportage aux États-Unis à Las Vegas pour Le Parisien pour interviewer Michel Polnareff. D'abord, racontez-nous cette rencontre.
On le retrouve au César Palace. Donc il apparaît vers 15h30, ce qui est à peu près son heure. Il est d'excellente humeur. Il abordait tous les sujets, de Luca à Macron, qui est fan de lui, jusqu'aux Gilets jaunes, puisqu'on est en pleine crise des Gilets jaunes. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il réponde à ma question là-dessus. Et en fait, il connaissait parfaitement la situation, il la suivait. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, il m'a dit qu'il soutenait les Gilets jaunes. Enfin voilà, il n'y a pas de question tabou avec Polnareff.
Et son nouvel album, intitulé « Enfin », c'est lui qui vous le fait écouter. Racontez-nous cette scène.
Je me retrouve à un moment dans un 4x4 dans lequel on fait un peu le tour de Las Vegas. Et il me dit, je vais vous faire écouter mon album. Dans la voiture, il n'y a pas mieux pour écouter le son de ce disque. Et je suis à la fois emballé par le côté épique qu'on retrouve dans certains titres. Et un peu décontenancé par ce son qui, en fait, est un son des années 70 très américain.
C'est pas facile, le choix sera difficile, répondre à cette question et prendre position.
Voilà, on l'attend depuis 28 ans, cet album. Et on attend d'un génie, parce que Polnareff est un génie mélodique. Et je pense que les paroles, elles ne sont pas à la hauteur des grandes chansons que Dabadie a écrites pour lui dans les années 70, par exemple. Il a toujours eu des auteurs qui savaient mettre en mots son second degré, son sens de l'humour. Et là, c'est Dorian qui a fait ça, un artiste qui fait des belles choses, mais qui, je trouve, n'a pas su mettre en mots le délirium très épais de Polnareff.
Emmanuel Marolles, on en revient au début de cet épisode. Michel Polnareff va innover avec ce spectacle immersif d'un nouveau genre à partir du mois de mai prochain. Ça semble un tout petit peu difficile à imaginer, à se représenter.
Il est, encore une fois, toujours intrigué, fasciné, passionné par la technologie. Donc il se dit, il y a quelque chose à faire. Moi, je suis aux États-Unis, j'ai envie de toucher le public français. Pourquoi pas le faire là et le faire à distance, finalement, avec une technologie très sophistiquée. On peut presque se croire dans une salle de concert avec lui. Ben voilà, c'est à la fois déroutant, excitant, c'est tout Polnareff.
Le fil conducteur de sa vie, c'est de créer le plus librement possible, c'est ça ?
Oui, alors sans faire de la psychologie de comptoir, je pense qu'on peut presque remonter à son enfance et à la façon dont il a appris la musique avec son père. Il a tout de suite essayé, dès son plus jeune âge, de se libérer de ses chaînes, entre guillemets, d'être totalement libre dans ses compositions, dans sa façon de vivre et dans sa façon d'essayer de se réinventer en permanence jusqu'à aujourd'hui.
Merci à Emmanuel Marolle et Éric Bureau. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.